Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Voilà, heureux de vous retrouver sur le plateau de BFM Business après notre nuit l'IA que vous avez peut-être suivi hier entre 20h et 22h. Une émission exceptionnelle qui remettait un petit peu en perspective la révolution de l'intelligence artificielle. On a évoqué la santé l'IA, mais aussi la robotique, le divertissement, le bureau et l'intelligence artificielle. Pour retrouver cette émission, si par malheur vous l'avez ratée, elle est dispo bien sûr en replay, en podcast audio sur bfmbusiness.com et sur l'appli RMC BFM Play. Nos experts pour ce soir, pour débriefer l'actu. Nous avons deux Frédéric. Eh oui.
Que deux.
Eh oui, mais c'est pas mal. C'est pas mal, ça, moi j'aime bien.
C'est vachement bien.
C'est Clément qui va se retrouver tout seul, mais tant pis pour lui. Frédéric Bianchi, salut Fred.
Salut. Bonjour.
Journaliste à BFM Business que vous connaissez bien, bien sûr. Un nouveau Fred dans le débrief de l'actu. Salut Frédéric Krebs, qui est... voilà, on va dire un spécialiste de la tech hein, depuis 1997. Tu surfes sur la technologie. Tu as travaillé à France Télécom. Tu as été l'un des patrons d'Allociné pendant très longtemps. Tu es aujourd'hui CMO de Serena. Tu es un ancien de Parter New Fund aussi. Et donc, on est très heureux de te recevoir pour commenter l'actualité de ce jour ensemble. Et Clément David, bien évidemment, qu'on ne présente plus. Salut Clément.
Salut.
Ravi de te retrouver aussi.
Bien. Président. Sans Fred Simotel.
Ben c'est voilà. Ouais, parce que ça aurait fait trois Fred.
Ça aurait été super.
Là, ça aurait été lourd quand même. Compliqué quand même, hein. Clément David, président donc de Paddock. Dans l'actu, ce soir, on va revenir bien sûr sur la WWDC dans un instant. On va prendre le temps. Elon Musk, avec son dernier, on va dire, tweet un peu bizarre. Pourquoi ne pas créer un smartphone, Tesla? Vous y croyez ou pas? Ben, on posera la question à nos experts dans un instant. Mistral, qui a levé hier 600 millions d'euros. Voilà, l'euphorie Mistral et de l'intelligence artificielle à la française se poursuit. Et puis Voodoo, qui rachète le réseau social BeReal. Alors, les plus vieux d'entre nous ne le connaissent pas, mais les plus jeunes sans doute, puisque c'est un réseau qui cartonne et qui a été donc racheté pour 500 millions d'euros. On en parlera tout à l'heure. Mais pour débuter, donc, retour sur la WWDC. Et la star, bien sûr, on en a beaucoup parlé avant-hier, c'est l'intelligence artificielle. Apple a enfin dévoilé sa stratégie pour entrer dans la course à l'IA générative. On va faire un récap des annonces avec Mélinda Davansoulas qui était à Cupertino. On l'écoute.
Ça s'appelle Apple Intelligence. Tim Cook a donné la feuille de route. Il veut une IA qui soit personnelle, puissante, sécurisée et surtout utile. Ici, pas d'effet waouh durant les annonces, pas de buzz comme on a pu l'avoir chez certains fabricants concurrents. L'IA, elle sera partout, pour tout et surtout très facile à utiliser. C'est en ça qu'Apple entend se démarquer de ses principaux concurrents. Eh bien, il y aura une IA pour gérer vos mails, vos photos, vous demander et vous offrir ce que vous voulez, car elle s'appuiera sur vos habitudes, sur vos routines, en bref, sur votre quotidien. Le tout en sera traité sur l'appareil. Ça, c'est une donnée importante, la sécurité et la confidentialité des données. Tim Cook n'a pas arrêté de le répéter et c'était aussi un appel à un partenaire officialisé, OpenAI. Il y aura bien ChatGPT avec Apple Intelligence. Ce ne sera pas le cœur, ce sera un partenaire. Et oui, il faudra aussi qu'OpenAI apprenne à sécuriser ses données. En tout cas, il est prévenu, Apple veut quelque chose qui soit sécurisé. Il prévient aussi ainsi ses utilisateurs. S'ils veulent partager des données avec ChatGPT, ils le feront en connaissance de cause. Et pour cela, eh bien, il y a un autre qui frappe à la porte. Google Gemini est en attente. Apple a promis de lui ouvrir, mais ce ne sera pas pour tout de suite.
Voilà, Mélinda Davansoulas qui était à Cupertino pour nous faire vivre ce grand rendez-vous du printemps finalement de la tech, hein, la WWDC. C'est du lourd, hein. Pendant plusieurs jours, tous les développeurs du monde entier se retrouvent, alors soit à distance, en visio, mais pour beaucoup en présentiel, puisque Apple organise en fait un vrai rendez-vous, de vraies conférences qui durent plusieurs jours. L'idée, c'est d'imaginer en fait, de tracer une feuille de route de l'avenir d'Apple, en tous les cas, de l'avenir de l'iPhone, de l'iPad, du Mac, etc., etc. Et cette année, évidemment, on attendait tous Apple au tournant, hein, Clément. C'était l'intelligence artificielle. Visiblement, on n'est pas déçus.
Ça dépend ce qu'on attend. Non, mais en fait, c'est la conférence pour les développeurs. Donc déjà, faut pas que les gens s'attendent à ce qu'on annonce des nouveaux produits, des nouveaux trucs. C'est pas là que ça se passe.
Ça, c'est en septembre prochain.
Exactement.
Pour l'iPhone 16, en fait, qui sera annoncé.
Et en fait, on se demandait un peu comment Apple allait rejoindre la cour de récré. C'est-à-dire qu'en fait, t'as tous les grands noms de la tech qui annoncent depuis... Allez, quasiment un an, mais tous les trois mois, à coup de bombardement, de news, de performance, et ça, de ce qu'ils font autour de l'IA. Et c'est vrai qu'on attendait de savoir ce qu'ils allaient faire.
Apple était très silencieux là-dessus.
Très silencieux. si tu me demandes, vu ce qu'ils annoncent, moi je comprends pourquoi ils sont silencieux. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'ils ont à annoncer, c'est une mise au standard marché de ce qu'on peut attendre aujourd'hui de n'importe quelle boîte tech quand elle parle d'IA. Quand on me dit on va mettre de l'IA un peu partout, ça va rendre l'utilisation plus simple, et puis vous pourrez accéder à ChatGPT, etc. Oui. Ok, c'est bien, ça prouve que vous n'êtes pas complètement largué. En revanche, moi, ça ne me rassure pas. Et on va creuser, on va prendre un peu de temps, je crois, pour le sujet. Mais...
Ah bah oui, bien ouais. sûr, on a 3h15.
D'accord. Bon, alors à ce moment-là, prenons que 30 secondes et puis on prendra 3h. Mais ça ne me rassure pas sur le côté leadership que peut avoir Apple dans le monde de l'IA. Je ne me dis pas, en fait, ils avaient ce truc que personne n'avait vu venir. Ils ont une vision très claire. Non, ils savent qu'il faut mettre de l'IA, ils en mettent. Bon, on va creuser, mais après, de base, je suis pas agréablement surpris par ce que j'ai vu.
Je sais pas ce que vous en pensez, hein, nos deux Fred de ce soir, mais je trouve qu'il y a quand même, malgré tout, une belle intégration de cette intelligence artificielle générative. Encore une fois, et je trouve que la magie d'Apple a encore fonctionné là, c'est-à-dire que toutes ces touches d'IA sont vraiment intégrées dans l'OS, et finalement, tu vois, tu n'as pas d'application à télécharger, tout est intuitif, et c'est ce qui a un peu la force, Fred, je sais pas ce que t'en penses de d'Apple et d'iOS.
Ah bah écoute, François, c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire qu'ils sont capables, et c'est ça la magie d'Apple, hein, ils sont capables de transformer un retard technologique en un avantage. Donc voilà, on prend notre temps, on n'est pas les plus forts peut-être technologiquement parlant, on prend notre temps, et par contre, quand on le fait,
ouais.
on ne révolutionne pas la techno, mais on révolutionne les usages autour de la techno.
Ce qui est quasiment plus important, finalement.
Exactement, et c'est ça la grosse différence avec le discours de Sundar Pichai un peu plus tôt, il y a un mois, avec Google, où Google, on sent que c'est des techos, on sent qu'ils ont bien bossé leur truc, encore qu'on peut douter sur certains aspects, mais derrière ça, à la fin, c'est comme l'Allemagne, à la fin, c'est Apple qui gagne, parce qu'ils ont trouvé le truc, la façon de présenter les choses qui font que derrière, on a envie d'utiliser.
Oui. Alors, est-ce que tu as suivi la keynote?
Évidemment, et les deux Fred vont être d'accord. Alors, Clément, je suis pas tout à fait d'accord avec toi ce soir.
Arrive.
Ça peut arriver.
Seul, c'est seul au monde. Mais je savais quand j'ai vu les noms sur la fiche.
Tu vas aller au coin.
Dans le corner, Clément. Non, moi j'étais très critique envers Apple. Je trouvais qu'ils avaient pris énormément de retard. Ils étaient arrivés en 2011-2012 avec Siri, qui était une nouvelle manière d'interagir avec son téléphone. Ils n'en ont rien fait. Ils n'ont pas vraiment développé. Là, je trouve que la conférence autour de Apple Intelligence, alors déjà le nom, c'est un coup de génie, AI, hein, ils préemptent finalement le terme AI, hein, Apple Intelligence, donc maintenant on écrira AI.
C'est vrai que c'est un joli coup quand même.
Voilà, c'est déjà un super coup marketing. Et je trouve que ça fait des mois, voire des années qu'on se dit, mais c'est quoi le futur du smartphone? Est-ce que c'est un truc qu'on épingle là? Est-ce que c'est un truc qu'on met sur les yeux? Moi, je trouve que finalement, c'est ça qu'ils ont présenté là. C'est-à-dire, c'est une manière nouvelle d'interagir avec son téléphone. Alors, par la voix, par l'écrit. Quelques applications très simples comme changer son fond d'écran. On va aller dans les paramètres, on ne trouve pas tout ça. Ben là, on n'aura qu'à le demander parce qu'ils ont un modèle de langage qui sera capable de très concrètement de nous expliquer comment aller dans les paramètres.
Tu veux dire par là que c'est l'interface qui va être la voix, va être la nouvelle interface.
Exactement, voilà. C'est une nouvelle manière d'interagir avec l'interface. C'est quasiment un nouvel OS. Alors, potentiellement, pour le moment, on a vu quelques briques, mais on sent quand même un très fort potentiel. Et c'est vrai que l'IA, on en parle depuis maintenant bientôt 2 ans, on se dit c'est un fort potentiel, mais on ne voit pas vraiment nos usages. Là, pour la première fois, ben, j'ai vu un produit, j'ai vu en quoi, moi, utilisateur, ça pourrait changer ma vie à travers plein de petites applications qui, au final, ben, font système quand on les met les unes à côté des autres.
La parole est à la défense, Clément.
Ouais, c'est intéressant, c'est un peu le débat qu'on avait, je me souviens, sur ce plateau, avec Lucas Perraudin, je pense, on avait inversé les rôles, quand on parlait de leur casque, le Vision Pro.
Et ça, par exemple, j'y crois pas du tout.
Alors,
lui non
mais en
plus.
En fait, on est d'accord sur rien, c'est pas possible.
C'est vrai que je me souviens, Lucas était lui, il croyait pas du tout. Enfin, c'est pas qu'il y croit pas, c'est qu'il se dit, Apple n'a pas révolutionné le concept de VR et de AR avec leur Vision Pro. Et il s'y connaît un peu parce qu'il a été quand même le patron de la VR chez Meta pendant quelques temps.
Et en fait, le truc, c'est, tout ce débat, c'est un peu, est-ce que révolutionner l'UX suffit pour avoir gagné la partie? C'est-à-dire que tu vois ce qu'on se disait sur le Vision Pro,
donc
c'est
l'UX, tu parles de l'ergonomie,
l'UX c'est l'expérience utilisateur, c'est-à-dire sur le Vision Pro on voit bien, c'est un casque où tu vois bien ce qui se passe, c'est de la 4K machin, après c'est un casque comme les autres. En revanche, est-ce que le fait de diriger
le
bouton
qui
avec
pas comme les autres,
le prix est pas comme les autres, est-ce que le fait de diriger le bouton avec tes yeux, d'avoir juste à cliquer dans tes avec tes doigts, de pincer tes doigts et ça clique sur le bouton, etc., le fait que ça se mette dans ton espace autour de toi, est-ce que ça suffit pour se dire ok, on va créer créer l'habitude à partir de cette expérience utilisateur qui est révolutionnée. Ben là, en fait, j'ai l'impression qu'on a un peu le même débat. C'est-à-dire que, est-ce que Apple change radicalement la donne sur ce qu'il propose en termes de technologie ? Non. Est-ce que, en revanche, la manière dont ils arrivent à rendre, comme d'habitude, les choses suffisamment simples, utilisables au quotidien pour que, finalement, ça fasse la différence ? C'est la discussion qu'on est un petit peu en train d'avoir. Moi, j'ai un doute, tu vois, quand ils nous disent « Ok, en effet, Siri, c'est quand même le truc le plus décevant de l'histoire de l'humanité. C'était extraordinaire en 2012 et on
c'était
est resté en 2012.
C'était plein de promesses, mais exactement. Au final, voilà, le Siri de 2023, voilà. De 2024 est le même que le Siri de 2011. Il fait rien de plus que programmer notre alarme quand on fait cuire des œufs.
Et quand tu leur demandes un truc un peu compliqué, ça cherche sur Google. Bon, la question. Mais après, c'est vrai que donc oui, ce serait trop chouette d'avoir Siri qui peut vraiment chercher dans les apps, etc. Après, quand Apple, on est en 2024, il te présente la gomme magique. Comme sur une Google, alors que c'est un truc qui existe depuis 10 ans, ou qui te disent, attendez, on va pouvoir, sur son téléphone, changer l'agencement des applications. Tu dis, waouh ! Eh ben, tout ce temps pour faire Android, c'était cool. Donc, c'est vrai que l'expérience a l'air ouf. Après, il y a beaucoup de choses qui sont présentées où je me suis dit, remplissage avec des trucs, pas game changer.
Ok. Ah, Fred, qu'est-ce que tu en penses ?
Je suis un peu d'accord avec toi quand même sur cet aspect-là, parce que quand on regarde, en fait, ce qu'ils nous ont proposé lundi soir, la première heure, c'est que des petits bouts de nouveautés, des petites choses qui vont peut-être changer un tout petit peu à la marge en fait nos vies.
Oui, des évolutions incrémentales, comme on a l'habitude de les avoir.
Voilà, et puis des trucs, franchement, effectivement, je vais pouvoir mettre mes icônes à peu près où je veux sur la.
Je me permets de te couper. Voilà. Il y avait quand même une information, enfin, je trouve une innovation très intéressante, c'est le fait de pouvoir envoyer des SMS quand on n'a pas de réseau grâce au satellite. Et mine de rien, ça, c'est pas un gadget. Le fait de vous dire, vous êtes dans un endroit où il n'y a pas de réseau, dans une zone blanche, et vous pouvez malgré tout communiquer avec quelqu'un, c'est une vraie avancée technologique. C'est pas un gadget, tu vois. Ça peut te dépatouiller d'un problème. Apple fait ça depuis quelques années déjà, puisqu'ils avaient implémenté cette fonctionnalité pour les appels d'urgence. Là, ils l'élargissent, en fait, à tous ceux qui ont un iPhone et qui, s'ils n'ont pas le réseau, nous pourront envoyer un SMS par satellite. Alors, au début, ça marchera qu'aux États-Unis, mais après, on peut imaginer que ce sera étendu au monde entier. Je referme la parenthèse.
Mais c'est vrai, mais du coup, pendant une heure, on a eu droit à un catalogue, en fait, de petites, on va dire, mesurettes. Et quand le patron d'Apple, Tim Cook, le patron d'Apple, reprend la parole, je me dis, ça y est, c'est terminé, une heure, ça y est, ils ont fait le taf, rien de neuf sous le soleil. Et c'est là où ils rembrayent avec la partie.
Ils mettent en route, voilà, en fait, l'IA.
L'IA. Alors, d'ailleurs, le truc marrant, c'est qu'il ne prononce jamais le nom de intelligence artificielle. Déjà, il rebaptise, comme tu le dis. Je trouve ça extraordinaire, c'est que il s'accapare en fait un nom. Ils le reprennent à leur sauce. Franchement, pour moi, c'est des génies du marketing. C'est presque, on va se le dire, Apple, c'est d'abord une boîte de marketing avant d'être une boîte techno.
Oui, c'est une boîte de produits avant d'être une boîte techno. Je pense que l'obsession produit, plus que pur marketing.
Mais même, ils savent faire.
Ouais, les caractériser, c'était quand même l'obsession. Enfin, en tout cas, Steve Jobs, c'était l'obsession du produit. Ouais. Tu vois, je pense que c'est dur si on dit c'est que du market parce que leur produit.
Je suis un peu loin. Là.
C'est les champions du produit consumer. Il y a quand même deux points à souligner. D'abord, la réception à la bourse. Les investisseurs sont dithyrambiques. Plus 7% hier pour l'action Apple, plus 5% aujourd'hui. Apple est redevenue la première capitalisation boursière de la planète. Sachant que la bourse n'est pas toujours tendre avec Apple. Hein, quand ils lancent un iPhone, pas toujours l'euphorie le lendemain.
Parfois, c'est.
Et donc, c'est le premier aspect plutôt qui peut rendre optimiste pour Apple. Le deuxième aspect, et là, donc, c'est des génies du marketing, mais c'est aussi des génies du commerce, c'est que l'Apple Intelligence ne sera disponible que sur les iPhones à partir de l'iPhone 15 Pro. C'est-à-dire que si on veut cette fonctionnalité, il va falloir acheter un nouvel iPhone. Voilà. Et dans un contexte où les ventes d'iPhone plafonnaient, voire avaient tendance à reculer sur certains marchés, c'est vrai, pour le coup, on a enfin la possibilité de se dire le prochain iPhone, il me dit bien, parce qu'il y a quelque chose de nouveau, enfin, sur un iPhone, ce qu'il n'y avait pas depuis plusieurs années.
Clément.
Ouais, moi, un dernier truc sur le sujet qui est là où ça peut vraiment changer la donne et où je vous rejoins, c'est sur la partie accessibilité. L'accessibilité, c'est le fait que quand tu utilises un téléphone ou une application, si tu as un handicap, tu vois pas bien, tu es daltonien ou ce genre de choses.
T'as des problèmes d'audition.
Exactement, ce soit quand même facile à utiliser. Et une des grandes promesses, par exemple, moi j'ai un mec qui s'appelle Alexandre chez Paddock qui voit très très peu. et tu vois qui est vraiment, quand il code, c'est assez incroyable parce que le mec code à la vitesse de n'importe qui alors qu'il est vraiment collé à son écran avec des boutons qui font quasiment la taille de l'écran et il navigue partout. Je veux dire, si aujourd'hui tu peux vraiment avec la voix chercher dans les applications, faire des choses dans les applications, etc., en interagissant moins avec l'écran, t'as toute une partie de la population de personnes handicapées qui vont pouvoir accéder à un pan de la technologie qui aujourd'hui est encore très difficile pour eux. Donc c'est sur la partie accessibilité, le côté faciliter le quotidien, à mon avis, peut changer vraiment la donne.
Alors avant de parler Siri, moi j'aimerais qu'on évoque aussi un sujet qui est intéressant, c'est la manière dont Apple, en fait, lamine certaines startups avec simplement des innovations qui arrivent. Tu parlais de la gomme magique, je sais plus qui en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est bête. C'est Clément David, c'est de Paddock, c'est ça
Paddock, président de Paddock.
Le roi du cloud, c'est bien lui. Et en fait, cette gomme magique existait déjà sur l'iPhone, il fallait télécharger une application. Et bien voilà, maintenant elle va être intégrée, ce qui fait que l'appli qui faisait ça, elle va se retrouver dans une situation compliquée.
Ah, ça aurait été ça, oui.
Pareil avec le tap-to-pay, je sais pas si vous avez vu ça aussi, qui est incroyable. On est dans un resto ensemble, on veut partager l'addition. Alors, en général, je t'invite, mais là, on va dire qu'on va partager. Je rentre la somme que je te dois, on tape nos deux iPhones et automatiquement, grâce au wallet, ça arrive sur ton wallet. Ça va faire du mal à Lydia et à toutes ces boîtes-là. C'est-à-dire qu'Apple, en fait, est un rouleau compresseur et quand il développe des fonctionnalités qui existent déjà et qui ont été développées par des tiers, souvent, c'est la fin annoncée de ces boîtes-là. Oui. Et on ne se rend pas compte de la puissance, en fait, de ça. C'est dingue.
Ouais, c'est comme un vortex un trou noir qui attire, en fait, tout à lui. Effectivement, pour l'innovation, on peut se poser quand même des questions, en tant qu'entrepreneur, parfois, de se dire, tiens, est-ce que ça vaut le coup que je passe 5 ans de ma vie, alors que tout peut être... tout peut être conçu, en tout cas, de l'autre côté par Apple.
Ouais, il suffit que Apple découvre ce que tu es en train de faire. Il dit, ouais, c'est pas mal. Ben tiens, je vais l'implémenter dans iOS 22. Adieu.
Et Apple pourrait te racheter. Apple pourrait te racheter. Donc il faut aller vite et il faut être vite et fort et bien suffisamment pour être sur les radars d'Apple. Pour qu'ils aient envie de te racheter ta techno relativement chère. En général, ils sont plutôt pas regardants sur les prix. Donc c'est ça. En tout cas, c'est ça la porte de sortie tôt ou tard. En tout cas, pour une application qui apporte vraiment quelque chose à leur écosystème.
Bon, tout à l'heure, on se moquait de Siri, mais bon, Siri, là, il va d'un coup, il va prendre, je sais pas combien de points de QI.
Mais c'est ça,
visiblement.
C'est surtout ça, pour moi qui m'a le plus impressionné. On va demander à Siri à quelle heure est l'avion de ma compagne, à quelle heure il atterrit.
Ouais, où est-ce qu'il est,
Siri,
je crois,
va aller chercher, où est-ce qu'il est. Siri va aller chercher dans les SMS qu'on s'est envoyé avec.
Tu stalkes les gens comme ça.
Avec mon comment?
Tu stalkes les gens comme ça.
Oui, oui, alors là, plus que jamais. Là, ça m'ouvre des perspectives incroyables.
Non, mais surtout quand tu vas la chercher, la pauvre, à l'aéroport, tu vois, vaut mieux qu'il sache quand est-ce qu'elle arrive. C'est bien pratique.
Donc Siri, en ayant accès à toutes ces informations-là et en ayant cette couche d'intelligence artificielle pour comprendre un petit peu les échanges qu'on a eu dans les SMS, par mail, éventuellement sur les réseaux sociaux, parce que Siri pourra aussi accéder aux applications. Donc tout ça fait que moi j'ai été impressionné. Quand tu parlais d'accessibilité, alors accessibilité évidemment pour les personnes souffrant de handicap, mais pour nous tous, on souffre tous de handicap par rapport à la technologie. Elle n'est pas naturelle, la technologie. On ne communique pas avec un appareil électronique comme on communique avec un humain. On a besoin d'interfaces qui traduisent notre manière de parler.
L'ergonomie, en fait.
Et qui traduisent la manière de parler de la machine à nous. Eh bien, je trouve que là, les exemples qui m'ont été présentés lundi soir par Apple m'ont assez convaincu.
Moi, j'ai trouvé, si je peux commenter ce point-là, j'ai trouvé un truc extraordinaire. Là aussi, une trouvaille d'ergonomie, de UX, comme on disait tout à l'heure, c'est que dorénavant, quand Siri va prendre la main, en tout cas sur ton appareil, il y a cette couleur en fait qui va encadrer en fait l'intégralité de ton écran et qui dit en fait à l'utilisateur, écoute, ne bouge pas mon pote, je vais t'aider maintenant.
Je vais scanner tout ça.
Et en plus, je te connais vachement bien. Je te connais depuis un an, deux ans, peut-être trois ans. En fait, il a toute ta connaissance en fait concernant. Et je vais t'aider. En fait, t'as juste une phrase à me faire et je vais t'aider tout de suite.
C'est la partie moins rassurante du truc aussi. Hein.
Ça reste sur ton téléphone.
Qu'est-ce qui t'inquiète, Clément ? Vas-y, dis-nous.
Non, mais c'est. Alors, là où t'as raison, c'est que Apple a beaucoup insisté sur la sécurité. Ouais. Et s'il y a un reproche...
Qui est leur tête de gondole, hein. La sécurité, c'est vraiment leur truc numéro un.
C'est vrai. Après, on se souvient que les photos de... Comment elle s'appelait l'actrice de Hunger Games qui avait fini sur... qui avait été extraite de...
Lawrence.
Merci. Ouais. Qui était sortie de, d'Apple Cloud. Je veux dire, ça peut arriver. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une promesse. Ils ont beaucoup insisté dessus. Donc, c'est vrai qu'ils sont rassurants. Mais après, il y a quand même toute cette analyse de ce que tu fais, de qui tu es. Ça avait été très reproché à ChatGPT au début. On sait qu'ils ont dégainé très vite avec, en étant beaucoup moins regardants que Google, par exemple, ou maintenant Apple sur ces trucs-là. Mais c'est vrai que ça va avec une compréhension de tes habitudes, une analyse de qui t'es. On se rapproche de... comment est-ce que c'est Jasper dans Iron Man, la voix
qui parle
dans son cerveau. On se rapproche un peu de ça.
Et en plus, la couche supplémentaire, c'est que quand Siri ne sera pas compétent pour répondre à votre question, il se connecte à...
ChatGPT.
C'est là, donc, l'accord avec OpenAI, hein, qui était un secret de polichinelle, parce que tout ça avait transpiré depuis ces dernières semaines. Ça, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux étages de Siri. Un Siri... qui va bien gérer ton téléphone en interne grâce à la puissance des processeurs Apple. Et puis dès que en fait tu as tu lui poses une question dont il ne connaît pas la réponse, là il fait appel à ChatGPT.
Mais est-ce que
gratuitement en plus.
Mais est-ce que c'est un aveu de faiblesse avec la fin de la dimension écosystème que Apple aime tant, ou est-ce que c'est un pragmatisme visionnaire de dire de toute façon notre modèle n'ira pas jusque là, acceptons qu'en fait il y a quelque chose de mieux sur le marché et prenons dedans. Tu vois, c'est...
Moi, je pense qu'ils ont presque fait on peut faire presque un parallèle avec Google, quoi, tu vois. Apple a passé un accord avec Google pour le moteur de recherche de Safari. J'ai l'impression qu'avec Siri, ça tombait sous le sens pour monter en puissance en IA générative, de passer un accord avec OpenAI. Je sais pas ce que t'en penses.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que Apple connaît ses forces et connaît ses faiblesses, surtout. Et ils savent qu'ils sont à peu près bons sur tout ce qui se passe sur leur device. Ils ont à peu près la bonne connaissance de ce qui se passe, d'autant plus que maintenant ils ont toute la partie processeur. Et à partir du moment où ils se disent voilà, ChatGPT a pris tellement d'avance sur ces sujets-là, on va pas aller se battre pour faire un service qui sera de toute façon moins bon. Donc on passe le relais. Et en plus on le dit. Et si ChatGPT raconte des bêtises, c'est pas nous. Les hallucinations, c'est pas nous, c'est ceux d'en face. Et ça, c'est super fort.
Ouais.
Ça, c'est super fort, oui. Ils étaient obligés. Maintenant, il faut rappeler, et on en va en parler certainement après avec Elon Musk, que l'essentiel des modèles de langage, en tout cas tous ceux avec lesquels on interagira avec Siri, sont des modèles de langage internes. Voilà, ChatGPT sera simplement l'exception dans notre manière d'utiliser l'IA sur iPhone. D'ailleurs, ChatGPT sera par défaut ne sera pas validé par défaut, donc il faudra autoriser l'utilisation de ChatGPT. Et même, je crois que quand Siri ne connaîtra pas une réponse à une question, et il nous proposera d'utiliser ChatGPT et on pourra à nouveau refuser. C'est pour ça que quand Elon Musk dit c'est une faille de sécurité colossale dans les iPhones à venir et j'interdis les possesseurs d'iPhone de venir travailler chez Tesla.
Comme disent les jeunes, il a le seum. On a plus l'impression que c'est ça.
Pourquoi vous spoiler la suite?
Allez, on revient dans un instant. Il est quasiment déjà 20h30, ça passe vite, dis donc. Voilà pour cette WWDC. Le replay de l'émission qu'on a pu faire spéciale là-dessus, c'était lundi dernier. Et on revient dans un instant juste après l'info éco. Elon Musk, donc, qui envisagerait de créer son propre smartphone. On va parler aussi de la belle levée de fonds de Mistral et de Voodoo aussi, qui rachète le réseau social Be Real. Vous restez là, Tech & Co, la quotidienne revient dans un instant, à tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.